Si vous voulez prendre place, vous asseoir, fermez vos ordinateurs portables, éteindre vos téléphones portables. En prendre les écouteurs si vous écoutez l'interprétation. On va commencer dans 2 minutes pour les gens qui nous écoutent en ligne. Merci.
Okay. Yeah.
We have an additional rolling mic here.
Thank you very much.
Presentation's in there. She has it. Everyone's happy. You're happy. I'm happy.
Sure was back here.
Sure that this. Can you test and make
okay. Thank you very much.
Bien, merci de votre participation. Je suggère que les personnes qui se trouvent dans le fond de la salle s'approchent, se rapprochent. C'est difficile de trouver une salle et qui conviennent pour ce type de réunion. Mais j'ai l'impression d'être une espèce de professeur et je ne suis pas un professeur. Donc, je vais vous demander de vous rapprocher pour participer entièrement. Nous avons 2 points aujourd'hui. Le premier, sur la mise en œuvre du commentaire public. Nous aurons une présentation de Phyllis, et qui est la responsable de la participation et de l'engagement. Et ensuite, nous aurons une présentation sur la question des services des langues. Et ce sera Christina. Il faut que je me souvienne. Voilà, Christina Rodriguez, oui, qui est responsable du service de langue. Et on discutera avec elle. Et ensuite, on passera au point divers, et si on a un peu de temps à la fin. Donc, je voudrais vous présenter les personnes qui sont assises ici à mes côtés, à cette table. Je vous ai déjà parlé de Christina et de Phyllis. Et de l'autre côté, à mes côtés, il y a les membres du directoire, Bertrand de la Chapelle, Gonzalo Navarro, Chris Despain et Thomas Norton. Et je suis Sébastien Bachelet. Bien. Donc, je vais donner la parole tout de suite à Phyllis. Merci, Sébastien. Bien. L'objectif de ma présentation est de vous montrer comment fonctionne le système de commentaires publics. Et ensuite, je passerai à la discussion. Comme Sébastien l'a dit. Donc, je vais essayer d'être brève, mais je vais aussi essayer de fournir la totalité des informations pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire de ce processus. Bien, alors, nous allons d'abord voir un petit peu comment ICANN a commencé à appliquer ce fonctionnement à TRT. La TRT est une équipe de révision, de transparence et qui a une série de recommandations qu'ils ont établies il y a quelque temps. Et au-delà de ces, la plupart de ces recommandations sont liées au processus de développement public, aux commentaires publics et au processus de commentaires publics. Donc, un de ces points concerne la certification et la priorisation. Le problème qui a été d'abord signalé, c'est que ce n'est pas facile pour les lecteurs à cause du volume des processus de commentaires publics qui sont ouverts. Ce n'est pas facile de voir qu'est-ce qui est vraiment important pour eux. Et donc, la requête était de fournir une espèce de priorisation pour que le lecteur puisse se dire « ça, c'est dans mon intérêt et ça, moins ». L'autre recommandation était la possibilité d'avoir une période de commentaires et de réponses dans le système. Et la raison pour cela, c'était que on voulait avoir un mécanisme basé dans le système pour que les commentaires n'arrivent pas seulement à la fin et pour qu'on ait le temps de répondre aux commentaires soumis auparavant. À cause du fait que très souvent on a tendance dans le comité d'ICANN à envoyer des remarques ou à poster des commentaires à la fin de la période de réponse, notre intention était de mettre en place un mécanisme de dialogue pour l'ensemble du système. En tout cas, c'était comme ça qu'on a interprété cette recommandation. Et l'autre, donc, de ATRT 16 à 17. Ensuite, il y a eu une série de points qui étaient liés à la sensibilisation concernant les sujets qui allaient être abordés et les problèmes qui allaient être discutés dans les forums d'ICANN. Alors, nous avons divisé la mise en œuvre en deux phases en février 2011 avant de commencer la mise en œuvre. On avait comme date butoir février 2012 et la période de commentaires pour cette recommandation était donc déjà fixée. Donc, l'équipe de révision était ouverte au public pour recevoir des commentaires récents ou les commentaires sur la recommandation en elle-même. Et lorsque cette période de commentaires publics a fini sur la recommandation, le personnel d'ICANN a pu commencer à planifier pour voir ce qu'on allait faire parce qu'il y avait un consensus de la part de la communauté selon laquelle ces recommandations devaient être mises en œuvre et comment. En juin 2011, le board d'ICANN a approuvé le plan de mise en œuvre que nous avons produit du mois d'avril au mois de juin. Et ensuite, dans la phase 2, et cette phase 1, phase 2 sont liées à la mise en œuvre, à la question d'application, de mise en œuvre. À partir du mois de juin jusqu'au mois de novembre en 2011, la communauté pouvait recevoir des commentaires et on recevait les commentaires de la communauté. Comment est-ce que ces recommandations allaient être appliquées? Ensuite, nous avons lancé en 2012 un nouveau système. Donc, cette mise en œuvre graduelle contient certains points importants, certaines dates importantes. Juin 2011, fondation de ce système pour produire davantage de travail. Le premier problème que nous avons constaté, c'est que les commentaires publics et les pages de commentaires publics sur le site d'ICANN n'étaient pas directes dans le domaine de l'information qui était fournie. Et ce n'était pas très cohérent. Donc, la première chose qu'il fallait faire, c'était de créer un système de présentation qui soit plus cohérent et concernant les données, les objectifs, les périodes de clôture. Et donc, maintenant, on a un format différent et on présente ces informations de manière beaucoup plus cohérente. On a aussi mis en place un système de recommandation ITIT de la recommandation 21, ATRT de la recommandation 21, qui a déjà été, ça a déjà été fait. Hein, et pendant le mois, en, la période juin-novembre 2011, nous avons fait la communication et en décembre 2011, nous avons mis le projet directement en application. Je vais vous donner maintenant un peu de détails concernant le travail réalisé avec la communauté. De juillet au mois d'août 2011, nous avons fait des groupes de focus, des focus groups, qui étaient formés de personnes qui étaient nommées après un appel aux leaders de la communauté pour toucher un peu l'ensemble des groupes et avoir une liste représentative qui représente bien notre organisme. Donc, on avait une vingtaine de personnes et on voulait donc peaufiner les détails. On a continué notre conversation et notre dialogue avec la communauté sur ces paramètres à travers le webinaire. Et en septembre-octobre, nous avons eu une période de commentaires publics sur ce sujet pour recevoir l'opinion de la communauté dans son ensemble après avoir travaillé sur ce groupe, donc sur ce focus group. En décembre, le directeur d'ICANN a approuvé les détails de la mise en œuvre et le nouveau système est maintenant mis en place depuis le mois de janvier 2012. Donc, ce que nous avons ici, nous avons des commentaires publics catégorisés avec des étiquettes. Ça correspond à la recommandation 15 de la TRT. Nous avons deux cycles comme recommandés, une période minimale de 21 jours. S'il n'y a pas de commentaires, pendant la période de commentaires, il n'y a pas de réponse, bien sûr. Et la page des commentaires publics doit être remise à jour à travers les données qui viennent des leaders de la communauté et du personnel d'ICANN. Depuis, et voilà, vous le savez, c'est ce qu'on a fait. La plupart d'entre vous ont suivi ce processus de près. Et j'ai regardé ce qui se passait, j'ai regardé les informations qu'on pouvait réunir et j'ai constaté qu'on a des commentaires et des réponses qui sont bien focalisées. Les réponses ne sont pas utilisées comme c'était notre intention de le faire. Et notre intention, c'était qu'il y ait des réponses aux commentaires et soumis au préalable. Et ce qu'on voit, c'est que la période de réponse est utilisée comme une extension du cycle de commentaires, ce qui est une bonne chose. S'il y a besoin d'avoir davantage de temps, il y aura davantage de temps. C'est un autre point, hein, la durée de période de commentaires, 21 jours, c'est trop court. On s'est rendu compte que c'était trop court pour certains groupes qui ont besoin d'avoir d'abord de créer un consensus, d'avoir une réponse unifiée sur certaines questions. Et on comprend ça, hein. Ils ont leur propre procédure interne, hein, qu'ils doivent faire pour parvenir à un consensus. Et nous comprenons donc que ces 21 jours, s'ils sont utilisés comme une période minimale, c'est trop court pour parvenir à ce consensus. Et ensuite, si on regarde les commentaires publics qui ont été ouverts et fermés pendant 5 mois de l'année 2011, 50% d'entre eux ont utilisé ces 21 jours minimum, hein, c'est 21 jours pour la période de commentaires, pour la durée de la période de commentaires. Hein. L'autre chose, c'est une observation que j'aimerais ici vous faire. On reçoit des visions conflictuelles concernant la durée des commentaires publics et la structure des commentaires publics de ce nouveau système. Alors, ce que nous avons, hein, certains pensent que c'est 21 jours minimum et c'est trop long lorsqu'il s'agit de la période de réponse, ou bien que la période de réponse est d'une certaine façon une répétition, hein, n'est pas nécessaire. Donc, il faut en parler, il faut en parler davantage et je pense que si le board d'ICANN approuve cette mise en œuvre, il a aussi constaté qu'il fallait qu'il y ait davantage de commentaires de la part de la communauté. Donc, c'est un processus à long terme. Hein. J'ai partagé certains voudraient, par exemple, qu'on prolonge la durée de la période de commentaires. Est-ce que 21 jours, ça suffit? Est-ce qu'on pourrait plutôt faire 30 ou 40 jours? En tout cas, tous ensemble, on pourrait essayer d'avoir une période de commentaires qui nous donnerait davantage de flexibilité au système. Voilà ce que certains me demandent aussi. Une période plus courte en général. Enfin, en tout cas, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que l'on attend du processus de commentaires publics d'ICANN? Est-ce que c'est quelque chose que l'on veut utiliser comme un médium, comme un forum, hein? Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé pour faciliter le dialogue et la discussion sur un point précis, d'une façon interactive? Je fais un commentaire comme membre de la communauté, vous y répondez? Ou est-ce que c'est seulement quelque chose qui permet de recueillir des réponses sur un problème en particulier? Et ensuite, le sujet de ce recueil sera analysé par l'organe concerné. Ça peut être l'équipe de révision, ça peut être le board ICANN, etc. Ou bien les deux. Il faut qu'on voit un petit peu, qu'on s'intéresse à qu'on se penche sur cette question. Mais je pense qu'on a besoin de parvenir à une compréhension commune. Comme ça, les attentes de la part du système seront équilibrées avec ce que le système fournit. Et comme ça, on aura une meilleure compréhension du système et cela dépend de votre expérience et de la nôtre. Merci beaucoup. Merci, Félix. Et vous avez la parole, les participants ont la parole pour les commentaires et les questions. Donc, on a Chuck, Steven, Marin Kate, Werner, et Karen. Bon, excusez-moi, mais j'ai du mal avec les noms. Hein? Bon, Chuck, allez-y. Merci, Sébastien. Chuck de VeriSign. Je voudrais parler de la période de réponse. Je veux pas. J'ai l'impression qu'il y a eu des commentaires qui avaient été faits à plusieurs reprises. Et lorsqu'on reprend, on prend ce concept. Hein, c'est une bonne idée d'avoir une période de réponse, mais ça ne fonctionne pas si on ne l'applique pas comme période de réponse. Si vous permettez que cela devienne une période pour de nouveaux commentaires, à ce moment-là, ce sera cela. Mais l'application, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir un contrôle. Ça peut être fait à travers les systèmes, différents systèmes, pour le rendre comme ça. Et à ce moment-là, ça pourra fonctionner. S'il n'y a pas un mécanisme d'application, je ne parle pas de quelque chose de application par la loi. Hein. Non, non, je veux dire un système qui permette de l'appliquer systématiquement. Hein. Je pense que ce serait utile. Chris, allez-y. Merci. Chuck, Chris Despain. Nous avons eu cette discussion dans la communauté. Je pense que une possibilité serait d'avoir un système dans lequel on peut répondre, dans le sens que on a un commentaire et on y répond. Hein, les gens peuvent faire des commentaires, ils veulent le faire, mais je pense qu'il faut passer par ce processus. Et c'est une façon de faire. Mais oui, je pense que la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que j'ai travaillé à la TRT pour faire une recommandation et notre intention était de faire avancer le débat plutôt que d'avoir simplement un système qui n'était pas qui servait aux gens à faire des commentaires. Hein. Moi, je ne veux pas lire ce que les autres gens veulent dire. Je veux prendre le micro et le dire. Hein. Ça, c'est mon objectif. Donc, je pense que c'est ça, finalement, qui compte. Steve. Merci. Steve Matallon, du regroupement de propriété intellectuelle. Je veux me déclarer coupable, hein, par rapport à ce que Chuck a dit. Nous devons faire cela tout le temps dans le groupe de propriété intellectuelle parce que 21 jours et une période de 21 jours, c'est trop court. Et je l'ai dit, vous l'avez dit dans votre présentation, pour un groupe qui représente d'autres gens qui appartiennent à un regroupement et qui sont les membres d'un regroupement, c'est trop court. Nous avons déjà dit cela, mais si une personne regarde ça et tout seul, il sait ce qu'il pense et il peut répondre facilement parce qu'il a une série d'opinions. C'est facile. Hein? Mais pour un groupe, hein, on représente d'abord, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut ici inclure. Donc, il faut voir un petit peu quelle approche on adopte. Ensuite, pour une période de 21 jours, on a à peine le temps de réfléchir à la formulation et la période, le délai est terminé. Donc, je pense que je pense que c'est normal que la période de réponse soit traitée comme une période d'extension de la période de commentaires. Donc, peut-être que si on augmentait le temps de la période de commentaires, on aurait moins de problèmes là-dessus et vous auriez peut-être de meilleurs résultats. J'ai été surprise de voir que certaines personnes pensent que la période de 21 jours est trop longue. Je me demande si c'est pour les commentaires initiaux ou pour les commentaires de réponse. Mais à mon avis, je ne suis pas d'accord avec cette personne et je dirais que la période initiale doit être sans aucun doute plus longue parce que sinon les gens vont être limités dans l'objectif de la réponse et ne vont pas pouvoir donner une bonne réponse. Steve, j'ai une question pour vous. Donc la période de commentaire en elle-même a été établie par la personne qui fait le commentaire pour un minimum de 21 jours. Donc, il fallait avoir un minimum, d'accord. Donc, ça, c'est un problème. Hein, on peut faire 30 ou 40 jours, d'accord. Mais vous allez voir que la période de commentaire, vous voyez, a été établie à 21 jours. Il fallait l'établir, lui donner une durée précise. Donc, les groupes ne tiennent pas compte du fait que cela prend plus de temps pour un groupe que pour un individu pour faire un commentaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est augmenter la période de commentaire public ou bien, peut-être, c'est un avantage d'avoir une période de 21 jours comme minimum parce que les gens l'utilisent ou peut-être que 21 jours, c'est un peu trop court. Il faudrait que ce soit 30 jours, en tout cas. Je pense que le minimum est bien. Je pense qu'il faut le laisser comme ça. Mais peut-être créer une quantité de jours maximale. Je suis Marianne Cade et je voudrais faire une petite suggestion. Je pense que peut-être d'autres personnes qui sont ici et qui ont des commentaires sur ce sujet en particulier, et il serait peut-être utile de voir. Est-ce qu'on attend 21 jours pour voir si quelqu'un fait un commentaire? Parce que je suis d'accord et je ne suis pas d'accord avec certaines opinions qui ont été exprimées. Je pense que ce que j'ai préparé peut être utile. Le comité de stratégie actuel a regardé, a analysé l'idée et certaines idées qui avaient été proposées dans la TRT pouvaient être une aide pour le comité de stratégie. Nous avons pensé que le besoin de répondre à quelque chose, et c'était important, mais quand on a réfléchi, on s'est rendu compte qu'il y avait deux choses. Hein, et peut-être qu'on n'est pas assez spécifique, mais une chose était, il y a des communautés qui ont un système de consultation interne et ils doivent le faire. C'est leur communauté qui le demande, leur organisation qui l'indique. Hein. Donc, on a ici un problème de complexité. Il faut faire une consultation. Des fois, c'est compliqué pour des grands organismes. Mais au niveau des regroupements dans lesquels je participe ou avec lesquels je travaille, comme d'autres regroupements, ils doivent faire une consultation. Ça prend du temps et il faut travailler avec le personnel. Et donc, tout cela, ensuite, il y a la période de négociation et de consultation de ces commentaires. Donc, peut-être que 30 jours serait mieux. Mais ensuite, la deuxième chose qui risque d'arriver, hein, en tant que membre du PSE, c'est que le personnel va faire un résumé à ce moment-là et va l'envoyer. Et on va avoir une semaine de temps qui va passer, un petit peu de temps qui va passer, qui va être nécessaire pour analyser ce que le personnel nous donne comme résumé des commentaires, non? Et ensuite, il va falloir répondre. Hein? Oui, on a vu les commentaires de tout le monde. Hein? Il va falloir répondre donc sur la base de ce que nous avons lu et donner une petite analyse préliminaire. Hein? Donc, si ce n'est pas possible, il va y avoir une différence de temps beaucoup plus longue parce que des fois beaucoup de commentaires arrivent à la dernière minute et on doit lire tous les commentaires que d'autres ont envoyés, les digérer, les commenter, etc. Donc c'est un processus de commentaires qui prend un minimum de 30 jours. Donc, et mon deuxième, 60 jours, pardon, et ma deuxième préoccupation serait que tous les regroupements avec qui j'ai parlé ici ressentent une sensation de nouveaux acteurs. Hein. Un tsunami, on est en train de vivre un tsunami de nouveaux acteurs qui rentrent dans nos regroupements et on essaye de recevoir leurs commentaires, de les analyser, de les synthétiser, et de vous faire part des résultats, mais on a eu une augmentation donc de nos groupes, de personnes qui veulent participer, qui veulent contribuer à travers leurs commentaires publics, et donc ça se complique. Donc je n'ai pas de solution ici, je présente mes problèmes. Merci Marilyn. Ensuite on a Werner. J'ai pris les commentaires publics, les derniers commentaires publics que je pouvais trouver, et vous voyez ici, chaque style du mail. Et donc, c'est un commentaire de Christopher Wilkinson qui vient de rentrer dans ICANN. Alors, ce que le système fait, c'est prendre un message et on s'attend à ce que les personnes soient capables de rire cela. C'est un système à l'ancienne qui respecte vraiment les participants et les URL. Il y a une URL qui va donner une information qui correspond à une personne. Et il y a une nouvelle tendance dans ICANN qui est de ne pas respecter l'URL. C'est juste une page. Et ensuite, il y a beaucoup de pages et beaucoup de messages. Et si on met les pages à jour, ça ne va pas changer l'URL. Ça va continuer, ça va la déployer avec une connexion séparée. Donc, un moteur de recherche ne peut pas trouver la page et le système doit s'assurer s'assure que les gens ne puissent pas trouver le message sur Google et s'ils veulent envoyer un lien à ce message pour que quelqu'un d'autre le sache, c'est difficile. Donc, des fois, il faut avoir quelque chose qui permette d'attacher nos commentaires à quelque chose d'autre. ICANN, je vais vous donner un autre exemple. Il y a une page de nouveau GTLD qui a été postée sur ICANN en janvier. Le processus a commencé, il n'y avait pas de commentaires. On a mis à jour la définition d'utilisation exclusive et ça affecte tout le monde. Et si vous voulez trouver ce lien, il est difficile à comprendre, c'est 5 lignes. On ne comprend rien, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Donc, si vous cliquez sur ce lien, on arrive à une page qui vous dit « Login ». Donc, la plupart des gens abandonnent. Voilà. Donc, à partir de là, je dirais que certaines personnes peuvent trouver que ça signifie quelque chose. Il faut trouver qu'il faut cliquer sur « Not an applicant ». Et si vous cliquez là et vous êtes arrivé à ce point-là, vous arrivez à une page de recherche qui vous dit qu'il faut chercher la page qui contient. Et donc, le contenu du lien a été perdu. Donc, seulement ceux qui, à ce point-là, lorsque le cookie a été réglé, il faut de nouveau cliquer sur le lien original et vous allez trouver la page. Donc, c'est ce type de ressources avec une prévention, avec une complication pour parvenir à l'objectif qui fait que le problème de parvenir aux commentaires est presque, ou la possibilité de parvenir aux commentaires est presque impossible.
Hello, Kieran McCarthy. So I'd like to start off by saying there's been definitely.
C'est Kieran McCarthy qui parle. Je voudrais commencer par dire qu'on a fait des améliorations dans les commentaires, dans les périodes de commentaires publics. La page est meilleure, elle est plus claire, les délais sont plus clairs. Maintenant, je reçois les emails régulièrement. On me doit quand est-ce que la fin de la période de commentaires publics arrive, quand elle est ouverte. Et ça pourrait être plus engageant, mais en fait, le fait d'avoir les emails me fait participer davantage. Je voudrais savoir comment faire pour avoir les emails. C'est-à-dire, je me demande plus quand est-ce que les périodes ouvrent ou finissent. Alors, c'est un processus qui est beaucoup mieux, mais je suis un peu préoccupée. J'ai des plaintes à poser parce que vous servez toujours de ce système de commentaires qui est horrible dans le fond de la page. Et j'ai été avec les équipes et on n'a pas pu éliminer ce système. Et donc, je pense qu'on devrait se servir d'un système qui résout la plupart de ces problèmes qui sont parce que le système n'est pas bon, en fait. Et si on fait, si on voit les commentaires, on doit naviguer sur le site HTML. Ce n'est pas interactif, c'est un système vieux. Et donc, je pense que Werner a raison. Il parle d'avoir des URL plus simples. Et on doit bien mettre en place ce système pour que ce soit simple. C'est simple de répondre à un commentaire particulier qui est pour moi la solution à au problème de la réponse. Si on doit faire que les gens puissent répondre à un seul commentaire pour résoudre les problèmes. Et on a d'autres améliorations que l'on devrait faire, c'est de permettre que les gens se joignent à une période particulière pour que à chaque fois qu'il y ait des commentaires nouveaux, ils reçoivent des emails pour savoir qu'il y a eu un nouveau commentaire. Et c'est simple de le faire, et puis on peut aussi envoyer des emails aux gens en disant qu'il y a un résumé de la période de commentaires publics ou que la période de réponse est ouverte. Et si on recevait des emails, les gens pourraient, je pense, participer davantage et on résoudrait le problème. Donc on devrait identifier de façon proactive les gens qui sont intéressés dans une période de commentaires publics et un résumé de la période. Et c'est ça que le problème est, en fait. Si on sensibilise, les gens, on va les chercher et on leur dit, bon, est-ce que vous avez vu ceci? Ceci pourrait vous intéresser. Si on intègre cet aspect dans le système, ce serait un système qui fonctionnerait mieux. Et en même temps, je pense qu'on devrait considérer l'idée d'inclure des sondages qui ne devraient pas être contraignants. Mais ce serait pas comme un sondage, mais plutôt de diviser ce qu'on demande aux gens en petits extraits, et ce sera plus simple pour que les gens répondent. Si on leur demande de faire des commentaires sur un document PDF et les gens répondent avec un PDF, c'est pas un bon niveau d'interaction. C'est ça le défaut. Mais on pourrait l'améliorer. Merci, Kieran. Chris. Non, pas le Chris à table, mais le Chris qui est dans le public. Merci, je suis Chris Chaplot, le vice-président des opérations financières du regroupement des commerciaux. Par rapport à la représentation, Phyllis, c'est le problème, à la présentation, Phyllis, c'est les problèmes que la communauté voit et je suis contente d'être ici. Mais je pense que la période de réponse aux commentaires est bonne, en principe. Et je pense que lorsque le délai n'est pas suffisant, quand on a besoin d'avoir davantage de temps, et particulièrement lorsqu'on doit considérer le budget, on ne devrait pas chercher à avoir 50% commentaires, 50% réponses. On devrait avoir davantage de temps pour les commentaires et moins de temps pour les réponses. Et c'est plus simple de répondre que de faire un commentaire, à mon avis au moins. Et je pense qu'on aurait besoin de davantage de détails sur le site par rapport aux procédures. Et comme Steve, j'ai raté la période de la date d'échéance. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je devrais faire. Si je devrais publier un commentaire trop tard lors de la période de réponse, ou alors je repasse ce que l'on a dit et je vois des gens qui ont fait des commentaires ou fait des présentations. lors de la période de réponse par rapport à des commentaires antérieurs ou alors ils font des commentaires à d'autres documents. Donc c'est un mélange et on ne comprend pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si on va continuer. Et je vois, pour certains cas, que les équipes sont en train de rédiger un rapport, de résumé, et qui disent que c'est un résumé de commentaires, n'est-ce pas, par rapport aux dates d'échéance régionales. Donc, comme vous avez dit hier, c'est utile pour certains cas d'avoir des commentaires lors de la période de réponse pour pouvoir voir que si on risque de ne pas recevoir de commentaires du tout si on ne le fait pas ainsi. Mais je pense que le webmaster ne va pas enlever ses réponses dans la mauvaise période. Merci, Chris. Et on a Olivier maintenant. C'est le dernier pour ce point. Je suis Olivier Crépin-Leblon. Je suis le président de ALAC. Et 20 jours ne sont pas suffisants pour ALAC. C'est une contradiction en plus directe avec les recommandations d'amélioration à date large et avec la période. On a déjà discuté avec des gens de votre comité à plusieurs reprises. Et on a aussi discuté ce problème avec les présidents des ESSO et des AC. On cherche à avoir des solutions possibles et on a même entendu certaines ici. David Olive a pris des notes dessus et j'espère que ceci va vous parvenir dans quelques journées. Les solutions incluaient des périodes de commentaires initiale de 30 jours, mais alors la période de réponse commençait après 21 jours. Donc, on a une période où on a toujours des commentaires initiaux et des réponses qui arrivent en même temps. Et donc, en même temps, on a d'autres solutions. Et une autre préoccupation qu'on a manifestée était que les commentaires de période, parfois, finissent juste avant cette réunion ou cette semaine ou la semaine prochaine. Et les équipes d'ICANN, généralement, n'ont plus de force ni d'énergie la semaine après la réunion et ne peuvent pas se consacrer dessus. Et donc, les gens qui travaillent lors des réunions ne peuvent pas vraiment travailler et en même temps traiter les commentaires officiels. Et donc, l'idée d'une période noire a aussi été présentée. Et en dernier, on a dit que pour un individu, 21 jours n'était peut-être pas mal, mais pour une ESSO ou une AC ou une SG, le processus de consensus est déjà fait au moment où le commentaire est présenté. Donc, on devrait peut-être l'aborder différemment. Donc, pour les commentaires individuels, 21 jours sont pas mal. Mais peut-être que pour les ESSO, AC et SG, on pourrait élargir la période à 30 ou même 35 jours. Merci, Olivier, dit Sébastien Bachelet. Est-ce que mes collègues du directoire veulent faire des commentaires finaux sur ce sujet? Bertrand? C'est Bertrand de la Chapelle. Merci, Sébastien. C'est juste un petit commentaire et c'est qu'on a besoin de trouver la relation entre la période de commentaire avec le délai des différentes périodes, avec le temps où on les fait, pour qu'on ait un flux de travail naturel dans la discussion des problèmes et de l'évolution de la façon où on les traite. Et puis, nous avons un processus commun à tout le monde pour la période. Et je me demande, je ne sais pas si on pourrait l'explorer, mais je me demande si on pourrait distinguer le type de consultation selon l'étape de la discussion où on en est. On imaginerait que l'on pourrait demander des contributions au début d'une période, lorsqu'on présente un problème, pour que les gens apportent des idées. On n'a pas besoin d'une période de réponse. Peut-être dans ce cas, c'est juste une question de contribution pour passer à la prochaine étape. Mais puis, dans les autres processus de rédaction d'un document de recommandation ou de politique, on pourrait se servir de sondage sur certains éléments ou alors faire des commentaires sur une partie du document au lieu d'avoir une période de commentaires sur l'ensemble. Et puis, à la fin de la période de rédaction, lorsque le document est prêt, à passer à travers le conseil de la GNSO ou de n'importe quelle autre structure. On devrait avoir une période où on pose des questions de validation, voir si les gens ont des objections, pour voir s'il y a un consensus. Mais en fait, la question est comment on se sert des outils à travers ce flux de travail. Aujourd'hui, nous avons un processus qui est exactement ainsi, même pour les questions brèves et pour les problèmes longs. Merci Bertrand, dit Sébastien. Je voudrais finir avec cette partie de la réunion. Je veux demander si on a des questions à distance et on m'a dit que non. Ce n'est pas qu'on a oublié. C'est une partie très importante de cette réunion générale et en particulier de cette rencontre aujourd'hui. Je voudrais changer de langue et de sujet.
Sujet suivant en français. Ce qu'il me semble essentiel que nous utilisions les outils qui sont mis à notre disposition. Et comme vous pouvez le remarquer, les outils ne fonctionnent pas totalement. As you can see, the tools are not working completely because the scribes are...
Comme vous voyez, les outils ne fonctionnent pas complètement parce que les scribes attendent jusqu'à ce que l'interprétation leur parvienne. Et mon problème est que si tout le monde avait des écouteurs, j'aurais pu parler en français. Mais puisque vous ne les avez pas, vous dépendez de cet outil qui est le scribe. Et je devrais avoir le travail de scribe pour qu'il entende la traduction de ce que je dis dans une autre langue que l'anglais. Je vais essayer encore une fois.
Donc je voudrais introduire ce sujet. OK.
C'est une façon de voir qu'on a toujours des progrès à faire. Et je vais m'arrêter ici. Je pense qu'il est très important de se servir de ces outils en collaboration, mais je vais passer la parole sur les services de langage, de langue d'ICANN. Vous avez la parole. Et vous pouvez le faire en anglais, s'il vous plaît. Malheureusement, vous allez devoir le faire en anglais. Bonjour à tout le monde, c'est Christina Rodriguez qui parle. Je vais vous faire une présentation qu'on a préparée qui porte sur les services de politique de langue et le document de procédure qui a été publié le 18 mai. Bon, vous voyez dessus, Kaikan pense, lorsque l'on fournit des services de langue, comme on espérait, de rapprocher la communauté et de sensibiliser et d'intégrer les gens qui ont besoin de travail dans d'autres langues. La langue de travail d'ICANN est en anglais, mais on fournit d'interprétation et traduction dans les 5 langues dont l'ONU se sert, qui ne sont pas l'anglais. C'est l'arabe, le chinois, le français, l'espagnol et le russe. Les services de langue d'ICANN incluent la traduction, l'interprétation simultanée, l'interprétation de téléconférence, la transcription des audios enregistrés. Et on a les transcriptions des téléconférences ou ici des réunions et les scribes. Qu'est-ce que vous voyez en haut, c'est la transcription en temps réel. Et lorsqu'on a les scribes, on n'a pas besoin de faire la transcription des audios enregistrés. Pour vous donner des informations sur chaque service, c'est ce que vous allez voir sur la diapo suivante, la traduction en elle-même et la conversion d'un texte écrit envers un autre texte écrit, et c'est de la langue source envers la langue cible. Et c'est ce qu'on fait dans les 5 langues de l'ONU qui ne sont pas l'anglais. Et on traduit les documents principaux pour ICANN, les documents du directoire pour les recommandations ATRT, les articles des blogs, les annonces et d'autres documents que vous allez voir aussi. dans l'interprétation simultanée, vous voyez qu'on parle de, en fait de traduction, mais il s'agit en fait d'un service qui requiert des capacités, des compétences différentes de la personne qui le fait, comme par exemple les interprètes. Les sessions principales d'ICANN sont interprétées et des organisations et des sessions des comités consultatifs sont aussi interprétées. L'interprétation des téléconférences est utilisée pour fournir des communications améliorées entre les groupes de travail et la communauté lorsqu'ils ont des appels et des réunions téléphoniques tous les mois et on fournit d'interprétation pour soutenir les organisations de support et les sessions des comités consultatifs aussi. Et oui, puis la transcription convert les enregistrements audio envers des documents écrits ou en papier et on le fait pour toutes les réunions d'ICANN qui ne reçoivent pas des ITT ou des scribes, des RTT ou des scribes, et on le fait pour tous les enregistrements des téléconférences. Comme vous voyez, on a des transcriptions en temps réel, aux mesures que l'on parle, et le texte apparaît sur l'écran. Ça pourrait aussi être ça pourrait être transmis à travers Internet. On le fait aussi pour des propos d'archives. Et on cherche à avoir des commentaires aussi dans des groupes de travail. On inclut aussi dans la politique et les procédures des services de langue une partie qui parle d'une stratégie multilingue. C'est une stratégie que vous allez voir lors de l'exercice fiscal 2013. La stratégie inclut le support de traduction et interprétation qui seront faits dans les langues officielles des Nations Unies pour tous les documents et toutes les réunions publiques principales et les organisations de support et des comités consultatifs. Les services de langue d'ICANN vont fournir interprétation pour toutes les sessions du GAC dans les 5 langues de l'ONU hors l'anglais. Vous allez voir que l'on fournit français, espagnol et la langue locale. Vous allez voir l'interprétation en arabe, français, chinois, russe et espagnol. Et donc, comme j'ai dit, les sessions du GAC vont être traduites envers ces 5 langues et le portugais aussi. Et vous allez voir probablement, lorsque vous commencez à voir des documents traduits ou des documents qui ont été publiés sur le site web, on va ajouter une personne par langue aux équipes pour travailler sur les compétences d'un validateur et d'un réviseur. Et cette personne va être chargée d'évaluer et de réviser toutes les traductions publiées et voir qu'elles soient correctes par rapport à la terminologie et à la cohérence dans l'utilisation de la terminologie. Et ceci va assurer la qualité de la traduction. Je voulais être sûr que la présentation soit courte pour que tout le monde puisse poser des questions. Merci, Christina. C'est Sébastien Bachelet qui reprend. Le moment est venu de vous passer la parole pour la discussion. Et donc, j'ai Sergio et puis Kieran. Puis Jean-Jacques. Est-ce qu'on a... Oui, on a Werner. Je demandais si les gens voulaient parler en ce moment. Bien, alors Sergio... Je vais parler en espagnol. Je veux faire mon commentaire publiquement et c'est le sentiment de l'acralo au complet par rapport à l'interprétation et la traduction. Ceci a représenté un changement profond dans SICAN grâce à à tes travaux dans ce secteur et on veut te le reconnaître, on te reconnaissant. Des commentaires qu'on a et que nous avons lu le document que le département de services linguistiques a présenté et on a vu certaines questions dans lesquelles on voudrait approfondir et je suppose qu'il y a des aspects qui ne dépendent pas de toi, mais je voudrais les ajouter ici aussi. Et on a eu une base pour la participation minimale de 3 personnes pour les services d'interprétation en ligne. Et la suggestion qu'on avait à faire là-dessus est on a des gens au sein d'ALAC qui m'ont dit même de ne pas avoir une limite. Et on a d'autres qui proposent une limite plus élevée. Mais ce qu'on propose est d'avoir un minimum de 2 personnes. Je pense qu'on l'a proposé à d'autres occasions, mais je pense qu'il est important de le considérer. Et puis, notre deuxième proposition a trait au site. Je sais que ce n'est pas ta responsabilité, mais ça nous frustre parfois de voir des matériels en anglais sur le site ICANN. Et lorsqu'on va sur le site en espagnol, au lieu de voir le même site traduit, qui est les mêmes matériels qu'en anglais, on voit que le site n'est pas complet, on a besoin de ces documents. Et puis, j'ai une question aussi. Lorsque vous dites documents et traduction des documents importants, je voudrais savoir quels sont les documents importants. Parce qu'on doit être très spécifique, et je le dis parce que c'est grâce à cette définition et cette traduction des documents qu'on peut s'exprimer. Et à chaque fois que les gens doivent voter, on voit que le document a été publié en anglais simplement. Et donc tout ce qu'on doit discuter dans la région ne peut pas être diffusé dans la communauté qui parle espagnol, dans la communauté à large au moins, et ne peuvent pas s'exprimer. On a un pourcentage très petit de personnes bilingues dans notre région et la plupart parle espagnol. C'est pour cela que je pose cette question. Merci. Merci, Sergio, dit Sébastien. Cristina, tu veux répondre? On a tous les... On va prendre toutes les questions et on répondra plus tard. Bien, dit Sébastien. Alors, Kieran, suivez, je pense. Kieran, Bernard, Jean-Jacques et des autres qui suivront. Bonjour, c'est Kieran McCarthy. Et donc, il me semble que qu'il y a une grande opportunité ici pour les PPC. Christina a fait un énorme travail ces dernières années. Et je n'avais pas, moi, la compétence de traduire et d'interpréter avant qu'elle nous rejoigne. Et maintenant, on a ces compétences. Et ICANN se trouve maintenant dans la position de faire tout ce qu'on ne pouvait pas faire avant l'arrivée de Christina. Donc maintenant, le PPC peut faire la différence et internationaliser ICANN à travers la mise en place de principes sur la mise en place de services linguistiques. Et donc, dans l'image générale, dans le panorama général, le document a une déclaration de principes en ce moment qui nous fait déprimer un peu. Parce qu'on a un manque de vision. Et c'est pas que je veux faire une critique, mais on dit que dans tous les aspects de la mise en place de cet équilibre, on doit avoir le travail des gens d'ICANN et le coût et le délai impossible pour le développement de procédures. Le délai possible au processus de développement de politique. Et je voudrais voir que ce tampon de délai soit éliminé et qu'on va dire que les documents vont être disponibles dans les 5 langues de l'ONU et dire que c'est ce qu'on va faire. Et ne pas mettre les explications possibles et qui se pourraient être un peu difficiles et qu'on va le considérer. Et donc, ce que vous pouvez faire est de faire une politique publique où l'on dise qu'on ne devrait pas avoir un document sur le site ICANN jusqu'à ce qu'il ait été traduit dans ces 5 langues. Ça devrait être inclus dans la politique linguistique et on va dire que ça va faire du mal pendant 2 mois, mais puis ça va être intégré au processus et ce sera une réalité, ça va se concrétiser. Donc je pense qu'on devrait déclarer qu'on ne va plus publier des documents jusqu'à ce qu'il ait été traduit et ça fera la différence vraiment pour ICANN et pour l'internationalisation de le faire. Et un autre aspect est qui me semble que vous devriez travailler avec l'équipe là-dessus et qu'il me semble que le site web est en anglais. Et si on fait clic sur le bouton en français, on a une liste de documents en français et puis le bouton en espagnol, c'est pareil. Et on n'a pas de contexte pour ces documents. C'est incompréhensible, c'est impossible à suivre un Cannes si on ne parle pas l'anglais. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas difficile à faire avec le logiciel qu'on a. C'est assez simple de reproduire le même site dans une autre langue. Donc, ça devrait être la priorité. Je voudrais voir que le site principal soit disponible dans les 5 langues et que ce soit structuré de la même manière que l'on parle n'importe quelle langue. Donc, si vous suivez ces 2 processus, on va faire que le site soit disponible dans les différentes langues et dire qu'on ne va plus publier des documents jusqu'à ce qu'ils soient traduits. C'est un grand pas avec l'internalisation d'ICANN. Merci, Kiran.
Je voudrais juste préciser, est-ce qu'il faut traduire les commentaires avant de les publier? J'écris ce que vous venez de me dire, mais je pense qu'on va peut-être un peu loin. D'abord, avoir une page dans laquelle on peut chercher, naviguer dans une autre langue, hein, c'est bien, mais essayer de créer un miroir de ce qui se passe sur notre site en anglais est difficile. Et donc, je pense qu'il nous faut, et là, je suis d'accord avec vous, nous avons besoin d'ordonner les documents traduits, hein, pour avoir une vision à long terme, parce que s'il faut attendre pour que toutes les traductions soient terminées avant de publier un document, on va vraiment être très, très retardé dans notre travail et on va avoir des plaintes sur le travail, sur ces retards. Donc, dans la mesure où les commentaires sont acceptés, il y a déjà cette approche que vous proposez est vraiment une invitation à la critique si on suit votre conseil. Cheryl, ensuite quoi? Non, je ne suggère pas que les commentaires soient... Kieran parle, Kieran McCarthy, que tous les commentaires soient traduits. Chaque annonce... Alors, expliquez-moi un petit peu ce que vous avez dit, parce que vous avez dit que tout devait être traduit dans toutes les langues avant d'être publié. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que toute annonce devait être... tous les documents devait être traduit et ensuite publié. Hein, il y a une interaction qui doit être possible sur notre site Internet. Hein. Bon, on ne peut pas traduire les commentaires, etc., mais tout ce qui est important, tout ce qui est basique pour le processus de révision au sein d'ICANN devrait être traduit. Hein, lorsqu'on met une annonce et qu'il faut attendre 7 jours pour que ce soit traduit, ce n'est pas correct. Hein, ce n'est pas une bonne façon de faire les choses. Donc, voilà, c'est ce que je dis. C'est comme ça que je vois la façon de travailler. Et bien, merci. Je viens de Chine, Kuo Wei Wu, hein, je suis donc, et je considère le problème de langue de différentes façons. Et je dirais que la traduction est bonne. Et si vous vous rendez aux Nations Unies, par exemple, et vous écoutez les interprètes, la plupart du temps, ce n'est pas exact. Donc, si vous voulez que les documents officiels soient dans toutes les langues des Nations Unies, les 5 langues des Nations Unies, il faut s'assurer que tous les documents et les traductions soient corrects. Hein? Parce que sinon, ça va retarder le processus. Parce que les termes qu'on utilise sont souvent très différents. Donc, je dirais, avant tout, l'exactitude est une chose qui est très importante. Deuxième point, est-ce que vous voulez reporter le processus? Je pense qu'il y a une raison pour laquelle on choisit ICANN. Ce n'est pas pour... parce que ça va reporter les processus, retarder les processus. Est-ce que c'est le prix que nous voulons payer? Je pense que c'est un autre point ici sur lequel il faut réfléchir. Ensuite, tout, si tout est publié dans les 5 langues des Nations Unies, il va y avoir une énorme quantité de documents à publier. Et je pense que c'est aussi un grand coût, un coût important. Il faut voir si on peut assumer ce coût. Donc, je pense que les deux problèmes sont la vitesse du processus, l'exactitude sont deux problèmes. Et j'aimerais avoir un service de traduction et d'interprétation. Oui, parce que les gens doivent pouvoir utiliser leur propre langue pour commenter. C'est bien d'utiliser sa propre langue dans la communication. Donc, je suis pour l'interprétation et l'aide que l'on a pour mieux communiquer dans notre langue. Mais si on regarde les documents officiels, mon souci actuellement est la vitesse, la rapidité et l'exactitude.
Prendre la parole et ensuite je passerai la parole à Werner. Merci.
D'abord, je pense que le fait que l'on s'intéresse de plus en plus à cela est un bon signe du fait que l'on sent, qu'on a vraiment la sensation d'être une organisation internationale et les devoirs de la compagnie. Et c'est un des devoirs est la traduction. Le désir de traduire les documents est un désir tout à fait normal et tous ceux qui travaillent normalement en anglais doivent comprendre quelle est la sensation de personnes qui, et par exemple dans le futur, ceux qui vont travailler avec les registres d'IDN, la plupart des échanges vont être faits en arabe, en chinois ou en cyrillique et on n'aura aucune idée des discussions et de leur contenu. Hein. Donc, quelque chose, il faut se mettre à la place des gens. Hein. Donc, dans la mesure où le développement de l'IDN va avoir lieu, où des organisations vont couvrir de plus en plus des groupes de plus en plus grands de gens, la langue et le problème de la traduction va surgir en permanence. Il est important de voir les défis qui existent aussi au sein des organisations internationales et les défis qui existent dans le domaine de la traduction et de l'interprétation. Et il y a des problèmes concernant les processus dans ces grandes compagnies, dans ces grandes organisations qu'il faut régler dans les conférences. Quelle est la dernière version disponible pour que le groupe de travail continue à travailler? Parce que le groupe de travail continue à travailler dans une langue. Hein, et même s'il y a des traductions, il y a par exemple des questions concernant la traduction et la traduction disponible. Et très souvent, la traduction est faite dans une langue en particulier. Ça peut être l'anglais ou pas, ça peut être une autre langue. Donc, la question de l'exactitude aussi que Kou a mentionné est très importante. Et j'ai participé personnellement avec Martin Boyd, qui était le représentant de l'Angleterre, aux sessions de l'ITU, dans laquelle tous les traducteurs sont autour de nous pour trouver la traduction exacte d'un mot. Et on a différents types de documents, mais finalement, à la fin, lorsqu'on a une traduction, parfois la variation d'un mot ou deux peuvent avoir un gros, gros impact. Donc, il ne faut pas non plus... je ne veux pas dire que je n'ai pas confiance, mais il faut mettre l'accent sur les points qui sont importants ici. Comme Karen l'a dit, il faut essayer de voir un petit peu comment travailler et il y aura peut-être un domaine dans lequel on pourra commencer à travailler en coopération avec certaines organisations internationales pour voir comment ils ont travaillé sur la traduction des documents, comment ils travaillent dans ce domaine. De toute façon, c'est sûr qu'il s'agit d'un problème important au niveau opérationnel et si on veut vraiment le mener à bien, ce qui, à mon avis, est nécessaire, il faut le faire comme il faut. Il ne faut pas le faire à moitié, il faut le faire dans sa totalité. Donc, vraiment, je pense que nous devons aborder cette question, ce problème, et résoudre la question de la traduction, mais c'est un problème compliqué.
Maintenant, la parole est à Werner, s'il vous plaît. Et ensuite, Jean-Jacques, Marilyn et Roberto.
Et Werner Staub, il est sûr que nous avons fait de grands progrès, que nous avons un bon niveau de travail. Les choses sont beaucoup plus accessibles pour tout le monde. On ne peut pas le nier. Et la traduction est importante. Et on a fait des gros progrès, c'est sûr. Et actuellement, on n'a pas parlé d'un point qui est la transcription aussi. C'est très important parce que beaucoup de gens ont des problèmes pour comprendre, mais ils peuvent lire. Mais dans ce domaine, je dirais que dernièrement, on a fait un petit peu un recul, une régression, parce qu'on compte trop sur la qualité de nos scribes qui, et auparavant, étaient un petit peu avec nous, qui étaient avec nous dans les conférences et qui voyaient les gens et voyaient les visages et n'avaient pas de différence comme ils l'ont maintenant puisqu'ils ne sont plus ici avec nous. Et notamment, s'ils travaillent dans une zone différente, ils doivent se réveiller à 3h du matin pour essayer de travailler et de faire un travail qui demande beaucoup de concentration. Je me rends compte que des fois, la qualité a baissé par rapport à celle que nous avions auparavant. Mais je ne veux pas m'arrêter ici. Nous avons une équipe de transcription en distance. La traduction est très bonne aussi. Nous avons des ressources que nous n'utilisons pas. Avec les outils technologiques élémentaires que nous avons, par exemple, le fait de... Si c'est écrit ici, à un moment donné, nous devons avoir... Nous pouvons relier cela avec le moment où la personne parle. Nous pouvons permettre aux gens de chercher une partie de ce qui est lié à la présentation. On peut lier les traductions les unes avec les autres. On peut aider les gens à passer d'une langue à l'autre. Donc, même si on est dans la pression du moment, même si la traduction n'est pas toujours parfaite, on peut aider les gens à capturer quelque chose, à saisir quelque chose, à revenir en arrière et avoir une meilleure idée de ce que l'on est en train de dire. Donc, ça peut être très intéressant pour beaucoup de gens. Ici, les gens apprennent la langue et donc ça peut être un outil très intéressant et on peut faire plus. C'est deux propositions. La première, essayons de voir si on peut faire des économies ou de gagner de l'argent dans le secteur du programme de GTLD. Et c'est une somme importante, 300 millions de dollars. Et si on peut faire donc des économies dans ce domaine, par exemple, ne pas évaluer le même contenu 300 fois, ou une autre économie qu'on peut faire, c'est demander aux candidats ce qu'ils veulent faire vraiment. Est-ce que vous voulez utiliser votre TLD? Et leur demander s'ils veulent utiliser leur TLD. Donc, si on fait ce genre de choses, on va économiser de l'argent. Et il faut regarder les chiffres. Ça va faire une économie de 100 000 dollars. Et je peux demander à ce moment-là que, avec cet argent-là, qu'on utilise cet argent pour la sensibilisation, pour la traduction, puisque c'est l'objectif de ce programme. Parce que ça n'a pas de sens si cet argent n'est pas utilisé dans le cadre de l'interaction avec les gens de la communauté. Et le deuxième point, et il y a beaucoup de compagnies comme Google, Microsoft qui travaillent sur des outils de traduction pourraient être nos sponsors et pourraient nous fournir un service, une technologie dont peut-être qui nous serait peut-être utile au niveau d'ICANN. Merci. Merci, Werner. Je suis sûre que le comité du GTLD va tenir compte de votre dernier commentaire. Je ne ferai pas de commentaire plus approfondi là-dessus. Je vais demander maintenant à Jean-Jacques de prendre la parole. Bonjour, Jean-Jacques Soubrena. Je voudrais poser deux questions. Mais d'abord, je voudrais faire un commentaire général. Dans cette question de service linguistique, nous ne cherchons pas la perfection. Nous voulons l'efficacité. Et je pense que c'est important. Maintenant, ici, deux choses que je voudrais vous dire. La traduction et l'interprétation. Je pense que tout cela appartient à deux mondes différents. Et donc, parler de la traduction, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec ce qui a été suggéré par Kieran, qui répondait à Silver, qui disait de traduire tout. Non, je pense que non, ce n'est pas l'objectif. Il faut être clair. Nous avons besoin de notre communauté, d'une traduction des principaux textes pour permettre à la communauté de savoir à tout moment où est-ce qu'on en est dans un sujet donné. Bien, maintenant, en ce qui concerne l'interprétation, c'est un peu plus compliqué parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de différences entre la vraie demande et le service offert. Par exemple, en tant que personne qui utilise ces services, j'essaye d'utiliser mon écouteur constamment, ne serait-ce que pour une question de courtoisie. Et je peux parler en anglais, comme vous le voyez, donc ce n'est pas mon problème. Mais j'aimerais avoir un icon dans lequel on dise qu'il s'agit, dans le statut dirait qu'il s'agit d'une organisation internationale avec 6 langues. Ce n'est pas le cas. Pour le moment, c'est une coopération qui est sous la loi californienne et qui dit que même dans le processus de recrutement, l'anglais est la langue de travail. Donc, j'ai une vision assez personnelle sur tout cela. Mais actuellement, je pense que c'est notre réalité et je comprends l'opinion qui a été exprimée par Sergio et la discussion concernant les problèmes qui ont eu lieu dans Alak. Et je dirais à nouveau que je pense qu'il y a une relation coût-effectif et efficience qui est ici importante. Et je pense qu'on ne peut pas consacrer tous nos revenus aux problèmes linguistiques. Et tant que ICANN n'est pas une organisation internationale avec 6 langues officielles, je pense que les gens qui sont envoyés, qui sont délégués, qui entrent dans ICANN pour travailler avec nous, vont devoir être capables de parler en anglais, de travailler en anglais. C'est une question de principe. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à offrir un service d'interprétation et à lutter pour ce service. Mais je pense quand même que le reste est important aussi. Merci Jean-Jacques. Et Mike, avant Margin et Roberto. Jean-Jacques, très rapidement, vous pouvez répondre si vous voulez. J'ai une vision assez personnelle depuis un certain temps qui n'est pas partagée par beaucoup, je dirais. Peut-être que vous pouvez faire un commentaire là-dessus. Et au lieu de, pour ICANN, au lieu que ICANN essaye de faire tout, ICANN pourrait aider, faciliter et aider la communauté à s'offrir ses propres services de traduction. Peut-être que, et notamment dans les langues qui tombent dans la catégorie des langues des Nations Unies, par exemple, et dans laquelle les gens veulent avoir des documents dans leur propre langue et ne peuvent pas les obtenir, on pourrait trouver une façon de permettre aux gens de cette communauté de faire leur propre traduction ou de nous fournir des traducteurs et que l'on pourrait tester pour voir s'ils travaillent bien dans le domaine technique et trouver ou sinon financer cela. Hein, je pense que on pourrait trouver une façon de fournir des fonds pour le faire. Je voudrais qu'on voit comment donner aux gens le pouvoir de travailler pour eux au lieu de travailler, de leur donner tout sur un plateau. Jean-Jacques, oui, je dirais la réponse est oui. Lorsque j'étais un membre du directoire et le président du comité de participation publique, j'avais fait une suggestion. On devrait trouver une façon de donner à la communauté la possibilité à travers le réseau d'at-large que nous avons, les RALO, etc., parce qu'ils peuvent faire beaucoup plus que travailler dans les 6 langues des Nations Unies. Donc, leur donner la possibilité de s'offrir, de se débrouiller tout seul. Merci Jean-Jacques, excusez-moi, il nous manque juste 8 minutes pour clore cette réunion. Donc j'ai Marine, Roberto et Karen et donc on s'arrêtera là pour passer au divers. Marine Cade, je voudrais ajouter quelques faits importants, je vais essayer d'être claire. J'ai participé à une série de réunions dans différentes organisations internationales et je pense qu'il y a un niveau de soutien en fonction d'activité. Par exemple, pour le groupe de rapporteurs, pour les études, dans un groupe d'études, la traduction n'est pas fournie. Mais dans l'étude, dans le groupe d'études, oui, ce type de différence. Hein. Donc, en fonction du niveau que l'on a, on a plus ou moins de services et de dépenses hein, qui sont consacrées à ces services. De toute façon, les exceptions peuvent exister lorsque ça se justifie. Par exemple, s'il y a une réunion qui a lieu dans un pays où le public de cette région va être nombreux, il faut offrir ce type de service. On a peut-être une évolution hein, qui va avoir lieu et on peut essayer d'avoir comme objectif la possibilité hein, d'atteindre, d'arriver à un point, mais avec l'exactitude, c'est très important, la précision et l'exactitude. Je voudrais faire un commentaire aussi concernant le service de scribe, de retranscription. On ne se rend pas compte de l'importance de la transcription pour la communauté commerciale et la façon dont on va avoir un impact là-dessus en envoyant le contact et les informations à travers le système de transcription en temps réel. C'est très important. Hein. On perd la transcription en temps réel, on perd nos scribes, pardon, et dans beaucoup de réunions et dans beaucoup de cas, ICANN a une transcription qui est faite pour les ateliers plusieurs jours après la réunion d'ICANN. C'est un problème pour nous et je pense que ça peut être un problème pour vous aussi parce que vous utilisez ces transcriptions et nous les utilisons aussi pour atteindre, pour contacter nos membres et leur raconter ce qui a été dit. Ces gens ne peuvent pas participer en temps réel parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, peut-être que nous devons prioriser d'abord hein, cette transcription, qu'elle soit toujours disponible hein, pour les sessions publiques, les principales sessions. Et je vais soutenir ce que Bernard a dit pour la session publique. Je pense que nous avons des scribes qui travaillent en personne et qui soient ici parce que l'exactitude n'est peut-être pas toujours là. Donc, il faut insister sur le fait que les gens doivent dire leur nom. Essayons de regarder l'écran, voir si le nom a été correctement et entendu et écrit. Hein. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous, on a un problème au niveau des noms. On a pratiquement 30% des fois où les noms ne figurent pas. Et nous, on a besoin des noms. Merci. Merci, Marlene. Roberto. Oui. D'abord, je voudrais souligner que des progrès ont été faits depuis le début lorsque et on avait organisé le premier groupe Stuart Lynn avait organisé les premiers groupes qui s'occupaient des problèmes de langue. Et donc, je pense qu'on a vraiment du progrès. On attend davantage de progrès dans le futur. Et le résultat est, à mon avis, est ce que Kieran a dit. Maintenant, il y a un problème de compréhension en ce qui concerne la question des langues. Je pense que c'était une question abstraite de justice pour la communauté qui ne parle pas l'anglais. Non, c'est pas ça. La question, c'est que ICANN doit faire la meilleure utilisation possible de ses ressources, les utiliser au mieux possible. Si d'un côté on dit 21 jours, c'est trop court pour la réponse à une période de commentaire, on veut le prolonger, on veut le passer à 30 jours. Hein, et si ce n'est pas accepté, et si l'on n'accepte pas, pardon, que l'on ait besoin d'une semaine pour attendre la traduction, simplement parce que cela signifie que la communauté qui ne parle pas anglais aura une période beaucoup plus courte pour participer à ces commentaires publics. Alors, ça veut dire que ce n'est pas une question de justice. Ça veut dire que nous allons perdre des commentaires qui ne seront pas soumis à cause du problème de compréhension de ces textes. Et je voudrais, en plus, aborder un autre problème. Nous travaillons ici et nous partons du fait que, dans la plupart des cas, et c'était le commentaire, est-ce qu'on doit traduire les commentaires hein? Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est lié à quelque chose qui a déjà été dit. À un moment donné, on a besoin d'un résumé des commentaires qui ont été faits. Mais on part de la base que tout le monde va vouloir commenter en anglais. Et je pense que ça aussi, ça doit disparaître. les personnes qui ne parlent pas anglais, la communauté non anglophone, qui est finalement la majorité, qui est finalement majoritaire, a moins de temps pour avoir accès aux documents et les comprendre. Et ensuite, ils ont aussi moins de temps pour traduire en anglais leurs commentaires ou leurs réponses et pour pouvoir la soumettre. Donc, je voudrais ici inviter la communauté non anglophone à soumettre des commentaires dans leur propre langue, dans une des langues des Nations Unies. Et je pense vraiment que cela peut être le point de départ. Hein. Quand on commence à soumettre des commentaires dans une autre langue, à ce moment-là, la communauté anglophone peut commencer à réaliser le problème que nous avons, nous, les non-anglophones. Un dernier commentaire. Je ne suis pas aussi radicale et je sais que nous avons des limitations quant au budget. Donc, je ne pense pas que cela puisse être fait tout de suite. Mais je pense qu'il faut faire une différence entre ce qui est notre but final et ce but final. Hein, c'est vraiment le multilinguisme. Mais cela, on pourra, je pense, y parvenir dans le futur. Mais il faut d'abord définir les différentes étapes à suivre hein, pour atteindre cet objectif. Merci. Merci, Roberto. Une dernière question, Karen. Je vais être très rapide en ce qui concerne l'exactitude et en ce qui concerne aussi la possibilité de donner au groupe une indépendance pour s'occuper de régler le travail. Je pense que je sais que on a besoin des fois de travailler et la traduction va s'améliorer. La qualité de la traduction va s'améliorer. La communauté a besoin de traduction. Et si vous voulez, Christine peut vous expliquer bien, mais vous allez comprendre ce qu'on peut faire et comment améliorer ce travail. En ce qui concerne les soucis concernant les retards et si les traductions sont faites, je pense que vous abordez le problème de manière erronée. Si on décide de ne pas publier les documents avant d'avoir les traductions. On peut publier un document un peu plus tard, par exemple 14 jours après la réunion. Hein, et à ce moment-là, on a 2 mois hein, pour les lire. Hein, donc, il nous faut essayer de voir combien de temps peut prendre la traduction et à ce moment-là, voir avec les traducteurs. C'est une question de coopération. Hein. Donc, il faut voir comment organiser cela et à ce moment-là, une fois qu'on aura vu, qu'on aura compris, on pourra mettre en place ce système. Bien, une dernière personne et ensuite je conclue. Je vais clore la réunion. Bien, je vais être très bref. Gonzalo Navarro prend la parole. On a des bonnes idées en ce qui concerne ce qu'il faudrait faire. Et Bertrand a abordé un point essentiel ici. Hein, c'est un problème opérationnel qu'il va falloir régler, c'est sûr. Mais moi, j'ai un petit peu la sensation qu'il y a quand même des activités qui ont lieu dans le sens que il nous faut prendre quelques mesures initiales pour que ça commence à fonctionner d'une façon ou d'une autre. Et il faut faire cela tout de suite. Nous avons entendu des bonnes idées ce matin, donc nous avons le temps maintenant de les analyser et nous vous donnerons une réponse sous peu. Mais je pense que c'est la première étape hein, vers ce service de traduction tel que nous voulons le mettre en place. Merci, Gonzalo, pour vos paroles. Il me semble important d'utiliser les outils que nous avons ici et je dois remercier Sergio et Gonzalo dans ce sens. Je sais qu'il est difficile, je sais que cela est difficile parce que nous voulons être compris. Et peut-être, il vaut mieux le faire en anglais, des fois, pour être mieux compris. Mais si on utilise les services d'interprétation, tout cela va s'améliorer. Donc, je demande à tout le monde d'utiliser leur première langue. si ce n'est pas l'anglais ou si c'est l'espagnol ou le français, d'utiliser leur propre langue. Hein. Utilisez les outils que vous avez. Parlez dans votre propre langue.
Pour vous remercier de votre participation aujourd'hui, comme l'a dit Gonzalo, c'est une étape. Merci de vos inputs, vos propositions, vos réflexions. Ils vont être, tout ça va être pris en compte par le PPC. Je vous demande de ne pas oublier qu'il y a une période de commentaires qui est ouverte sur les questions des services liés aux langues. Faites-le en anglais ou dans une des 6 langues ou des 5 autres langues des Nations Unies. Je suis sûr que le staff réussira à se débrouiller avec ça. C'est important qu'il y ait des commentaires. Et je pense que la période de commentaires était suffisamment longue pour permettre à tous les comités, tous les constituencies de faire des commentaires, d'avoir le temps de les faire. Faites-les, s'il vous plaît. Et j'espère vous voir à la prochaine réunion de l'ICANN. Oui, je veux bien Jean-Jacques et Any Other Business, mais j'ai déjà 3 minutes de retard et... Ok, Jean-Jacques, pour 30 secondes, et après je clôt la réunion. Merci.
Dans les divers, c'est une requête que je voudrais faire, une petite suggestion. Lors de la prochaine réunion d'ICANN, on a parlé de la participation publique au niveau des services de langue, au niveau de la sensibilisation, au niveau de la possibilité de donner aux gens de contribuer dans notre travail pour préparer les différentes politiques. Merci. Merci. Et je voudrais remercier le président et le reste de ce comité pour nous donner les résultats et obtenir ce rapport sur la publication de comités et les politiques mises en œuvre. Et apparemment, c'est le premier rapport qui a été préparé. Je voudrais aussi offrir mes compliments au personnel d'ICANN. Vous avez fait un très, très bon travail pour cette réunion. Je pense que c'est mieux. Vous avez répondu, vous avez respecté les délais et le travail a été bien meilleur qu'à Costa Rica. Donc, bravo, merci. Et nous attendons le rapport futur. Merci. Je veux vous remercier, Steve, parce que vous nous avez remis sur la voie dans ce domaine-là. Et je dirais que c'est exactement ce dont nous avons besoin de la part de la communauté. Nous ne sommes pas quelque part en train de faire quelque chose. Nous sommes en train de faire quelque chose pour vous. Donc, merci beaucoup, Steve. Hein? Bien, OK. Bien, merci à tous. Merci aux participants. Et on se retrouve lors de la prochaine réunion. Merci.